Micro Méga, Patrick Chompré.
Bonjour et bienvenue, c'est l'actualité scientifique de la semaine avec vous, Caroline Lachowski, bonjour.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
En dernière partie d'émission, notre invitée multifacette sera une scientifique spécialiste de physique nucléaire qui est devenue journaliste. Et oui, c'est possible. En deuxième partie, nous irons sur les îles Galapagos, sur les traces de Darwin, 174 ans après. Des scientifiques se sont rendus sur cet archipel unique pour observer la faune et la flore, compte rendu de cette expédition. Et puis dans quelques instant, notre univers est-il unique? C'est la question sulfureuse que se posent aujourd'hui de nombreux astrophysiciens et physiciens. L'hypothèse des mondes parallèles fait son chemin. On en parlera avec Hélène Lemeur de la rédaction du magazine La Recherche qui consacre un dossier à ce sujet et avec Aurélien Barraud, chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Bienvenue dans cette émission. Micro-méga. Et nous commençons avec vous, Caroline, par quelques infos que nous avons triées dans la vaste infosphère scientifique.
Tara Océan, c'est parti. Ce voilier d'exploration scientifique, en gros la version 21e siècle, un 36 mètres tout équipé du Beagle de Darwin, a quitté l'Orient samedi pour une expédition de 3 ans. Un périple de 150 000 km qui mènera cette goélette sur tous les océans du globe, avec pour mission de collecter, d'étudier et d'analyser le plancton et les coraux de toutes les mers de la Terre. À la fois pour en savoir un peu plus sur cette vie sous-marine encore largement inconnue, mais aussi pour comprendre comment ces écosystèmes marins qui produisent la moitié de l'oxygène de l'air que nous respirons et qui jouent donc un rôle décisif dans l'évolution du climat vont réagir au réchauffement annoncé et à l'acidification des océans. Réponse dans les 3 ans environ grâce aux nombreuses équipes de scientifiques qui se relayeront à bord de Tara et qui viendront ici même en studio dans Micro-Méga nous faire partager leurs découvertes à suivre.
Depuis mardi dernier en Europe, les ampoules à filaments de 100 watts et plus sont remplacées par les lampes basse consommation, vous le savez, les LBC, des nouvelles ampoules qui consomment moins évidemment, mais certains pensent qu'elles ne sont pas irréprochables au niveau santé. Selon une étude du CRIREM, le centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques, les LBC émettent des rayonnements conséquents. Écoutez Sophie Gouillet du CRIREM au micro de Céline Rousset.
Nous avons testé des dizaines de lampes et nous avons à chaque fois retrouvé le même phénomène, c'est-à-dire des émissions radiofréquences qui peuvent être élevées plus on est proche de la lampe.
Et qu'est-ce que vous craignez exactement comme effet sur la santé ?
Bien déjà, on voit apparaître des perturbations sur du matériel électronique, des pompes pacemakers dans le cas, mais ça peut être la même chose pour les pompes à médicaments, les prothèses, des clips, etc., ou des appareils auditifs. Et ensuite, eh bien, sur la santé en général des citoyens, jusqu'ici, on n'a pas du tout de données. Donc on est dans un cas où il faut appliquer le principe de précaution et ne pas se placer à toute proximité de ces lampes, c'est-à-dire ne pas les utiliser en lampes de chevet ou lampes de bureau. On a alerté, maintenant c'est aux autorités de répondre.
Comment vous expliquez que finalement il n'y a pour l'instant rien qui se passe ?
Bien, vous savez, quand on a fait paraître l'étude, au tout début, il y a eu énormément de pression de la part des syndicats, de la part des lobbies, des industriels. Je pense qu'il y a des stocks énormes aujourd'hui qui sont disponibles et qui doivent disparaître avant qu'on se penche sur le sujet.
Alors l'Agence française de sécurité sanitaire, de l'environnement et du travail rendra publique à la fin de l'année une nouvelle étude scientifique sur ce sujet.
De quelle couleur étaient donc les dinosaures et les oiseaux au temps de la préhistoire? On devrait bientôt pouvoir le savoir grâce aux travaux d'un paléontologue du muséum de Yale aux États-Unis qui a réussi à isoler pour la première fois des nanomolécules productrices de couleurs sur un fossile de plumes d'oiseaux datant de 47 millions d'années. Et vous savez quelle couleur elles produisaient, ces microstructures pigmentées? Un bleu-vert iridescent presque cuivré, un peu comme le plumage de nos étourneaux. Ce qui prouve non seulement que les oiseaux étaient déjà en technicolore il y a quelque 47 millions d'années, mais aussi que les dinosaures, leurs ancêtres, sur l'arbre de l'évolution, devaient probablement l'être aussi. Alors était-il gris, était-il vert, était-il vert de gris? Probablement un peu des deux, irisé et iridescent, comme devrait assez vite le démontrer le professeur Derek Briggs, qui pourra au moins se vanter d'avoir donné de la couleur aux fossiles.
« C'est l'heure de la question à 100 millions d'euros. Notre univers est-il unique? C'est en tout cas la question audacieuse que se posent aujourd'hui des physiciens. L'hypothèse des mondes parallèles fait son chemin. On en parle avec vous, Hélène Lemeur. Bonjour.
Bonjour Patrick.
Journaliste de la rédaction du magazine La Recherche. Vous consacrez un dossier à ce sujet. On va en parler, bien sûr. Avec nous, Aurélien Barraud, en ligne, chercheur, laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, bien sûr, sur ce thème des univers parallèles. Alors d'abord, c'est vrai que c'est une question qui fait rêver, Hélène, La Recherche, c'est un magazine sérieux. Alors pourquoi ce sujet?
Alors effectivement, il peut paraître un peu étonnant que La Recherche s'en empare, mais dans l'imaginaire, c'est souvent une question de science-fiction, de philosophie aussi, parce que ça fait bien longtemps que les gens se posent cette question. Mais ces derniers temps, elle est de plus en plus entrée dans le champ scientifique. Alors ce qui est très intéressant, c'est que c'est une théorie ou une hypothèse, certes très spéculative, mais qui n'a pas été bâtie en tant que telle. Je pense qu'Aurélien Barraud ira dans mon sens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle découle de différentes théories de physique théorique, qui cherchent, elles, à répondre à des questions de physique des particules, de gravitation, théorie des cordes et autres, et qui chacune, finalement, aboutit à l'existence d'univers multiples. Et c'est ça, un petit peu, qu'on a voulu expliquer à nos lecteurs, comment cette hypothèse arrive. Donc, il n'y a pas qu'un multivers.
Oui, alors, attention, le mot multivers, c'est les univers multiples, on appelle ça des multivers.
Enfin, en opposition avec univers, on a des multivers. Voilà. Mais derrière ce concept de multivers, il y a en fait plusieurs définitions.
Voilà. Alors,
c'est ce qu'on s'est un peu attaché à expliquer dans ce dossier.
Et vous avez réussi, parce qu'il y a quand même quatre chemins théoriques qui ne sont pas évidents et que vous avez résumés.
Et qui viennent d'horizons différents aussi. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure que, bon, une des grandes questions en physique théorique aujourd'hui, c'est quand même d'expliquer à la fois l'infiniment petit, l'infiniment grand, la physique des particules, la mécanique quantique et la relativité générale. Donc, comment faire pour avoir une théorie qui explique le tout? La théorie des cordes essaye d'y répondre. Elle n'a pas réussi jusqu'à présent. Mais ce qui est intéressant dans ces questions, c'est aussi de se poser où sont les limites de la physique théorique, les limites entre frontières philosophie et physique. Je pense que c'est un sujet qu'Aurélien a à cœur.
Ben on va lui demander. Oui.
Mais un autre intérêt aussi de ce sujet, c'est qu'il apporte un autre problème dans notre univers, c'est que les modèles que l'on a aujourd'hui font appel à des valeurs de constantes fondamentales qui, toutes comme par hasard, ont la bonne valeur pour conduire à l'existence de la vie, et nous en particulier. Et ça, pourquoi donc par hasard vivons-nous dans un monde tel? S'il y en a plusieurs, une infinité, voire si tous les mondes existent, le problème, c'est
Mais ça sera plus facile.
Voilà.
Donc autrement dit, ça vient à la rescousse de nombreuses questions posées aujourd'hui par les physiciens. Problème sur lequel butent les physiciens.
Alors bien sûr, il y en a qui considèrent encore aujourd'hui que c'est la pure métaphysique et ne veulent pas en entendre parler. Des physiciens très reconnus, mais il y a aussi Weinberg, prix Nobel, Hawking, gens qui...
Oui, pas forcément des huluberlus.
Voilà. Donc c'est bien pour ça qu'on a voulu... certes, c'est un sujet qui agit de la communauté, mais c'est aussi notre rôle, surtout dans une nouvelle formule de la recherche, de montrer les idées qui agitent les communautés scientifiques.
Aurélien Barraud, vous êtes d'accord avec tout ça, par cet exposé d'Hélène?
Oui, hélas oui, pour la qualité du débat, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je trouve que c'est assez étonnant que, comme l'a dit Hélène, certains intellectuels et certains physiciens ne s'intéressent pas à la proposition dans la mesure où elle demeurerait purement métaphysique, ce qui est tout à fait regrettable, parce qu'une proposition métaphysique est déjà tout à fait digne d'intérêt. Mais comme l'a mentionné Hélène, je crois effectivement que ce n'est pas une proposition métaphysique, même si elle a bien sûr des ramifications métaphysiques. C'est une proposition physique au sens le plus orthodoxe, le plus conventionnel et le plus habituel du terme. C'est-à-dire qu'elle découle de modèles qui sont testés dans notre univers, qui sont avérés à un certain niveau de confiance, puisque vous savez qu'on ne peut jamais prouver une théorie, on peut prouver qu'elle est fausse, on ne peut jamais prouver qu'elle est juste, on peut simplement y croire suivant un certain niveau de fiabilité. Et ces théories prédisent effectivement l'existence de ces univers. Et je crois qu'il y aurait quelque chose de l'obscurantisme à se fermer a priori à cette conséquence, parce que précisément elle est prédite, et parce qu'en plus, elle résout un certain nombre de difficultés, et ce, de façon naturelle, sans aucun ajustement ad hoc des paramètres, comme les physiciens théoriciens en sont souvent un peu trop friands.
C'est pourquoi vous dites donc dans cette interview, dans La Recherche, que c'est la première fois, selon vous, donc c'est la rationalité qui semble conduire à l'existence du monde invisible. Pour que les auditeurs puissent s'imaginer, ça ressemblerait ressemblerait à quoi un monde d'univers multiple, un monde de multivers?
Vous savez, le très grand philosophe, peut-être le plus grand philosophe du XXe siècle, Ludwig Wittgenstein, ouvrait son œuvre majeure en disant « le monde est tout ce qui est le cas ». C'est un peu ça le multivers. Tout ce qui est le cas, tout ce qui est possible a lieu quelque part. Imaginez d'autres mondes avec d'autres nombres de dimensions, d'autres lois physiques, d'autres contenus matériels ou immatériels. Bref, une espèce de métadiversité presque infinie, presque illimitée et qui dépasse même ce qui est visible dans le langage de notre physique. Et c'est vrai, je crois que c'est la première fois qu'il y a une nouvelle sorte d'union entre la rationalité et peut-être la métaphysique. C'est ce qu'on appelle la mythologie, hein, mythos et logos, c'est le mythe et le rationnel. Une union d'une nouvelle forme, parce que pour la première fois, c'est pas le mythe qui est premier. C'est la pensée rationnelle, scientifique, la plus usuelle et la plus orthodoxe, qui conduit effectivement non seulement à des résultats testables, quantifiables, précis et sérieux, mais aussi à des mondes un peu plus échevelés, un peu moins directement visibles, et qui, je crois, engrènent effectivement sur une nouvelle forme de métaphysique, et ça, c'est plutôt quelque chose de réjouissant.
Les univers parallèles dans Micro-Méga, est-ce que vous vous attendez, Hélène Lemeur, à des réactions fortes suite à ce dossier? Puisque donc, vous l'avez dit, il y a des scientifiques qui ne veulent même pas en parler. Aurélien Barrault en a parlé également. Vous avez déjà des résultats, des retours?
On a quelques... Sur les blogs, vous savez, ça va très vite. Des gens qui disent comment, la recherche, non, je ne l'irai pas. Et d'autres, c'est intéressant. Donc bon, pour l'instant, il vient de sortir, le magazine. Donc j'espère effectivement que nous en auront de nombreuses et de variées.
Aurélien Barrault, est-ce que vous pouvez nous donner, vous, une idée un petit peu de par quel chemin vous passez pour aller vers cette hypothèse des univers parallèles? On ne va pas tout comprendre parce qu'on n'est pas physicien, mais est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques pistes de votre travail sur ce thème?
Oui, les pistes sont simples. Et d'ailleurs, pour répondre à votre question précédente, je crois qu'il faut réintroduire un peu la dimension subversive aussi des propositions scientifiques. Ah. Et si le dossier ne laisse pas d'indifférence, si peut-être même il révolte, tant mieux. Voilà, ça c'est mon sentiment. Alors les pistes sont simples, on a aujourd'hui un modèle pour décrire l'univers primordial qu'on appelle inflation. Dans le scénario de l'inflation dite éternelle, sont créés des univers bulles, en nombre éventuellement infini, et dans chacun de ces univers bulles, les théories dont nous disposons actuellement, qui sont tout à fait spéculatives, comme l'a rappelé Hélène, mais qui sont néanmoins des très bons candidats aux théories d'unification, comme la théorie des cordes, peuplent en quelque sorte chacun de ces mondes bulles de lois physiques différentes. Ce qui est intéressant, c'est que la loi, ce qui semble presque nécessaire par définition, ce qui est intransgressible réapparaît dans ce type de scénario comme finalement un phénomène contingent, c'est-à-dire qui pourrait ne pas être ou qui pourrait être différent. C'est une sorte de pensée de l'impossible ou des autres possibilités. C'est une pensée finalement de la multiplicité qui s'introduit jusqu'au cœur de la physique théorique, qui doit être considérée avec circonspection parce qu'il est tout à fait possible que dans quelques années on se rende compte que cette hypothèse était une fausse piste, mais qui peut aussi dessiner effectivement une nouvelle image, une espèce de métacosmos, d'un méta-univers avec des mondes bulles peuplés chacun de lois physiques différentes, ayant chacun un volume infini et donc une éventuelle infinité d'univers décrit comme l'ensemble des phénomènes qui nous sont accessibles.
Question de Caroline Lachowski.
On a l'impression tout de même que tout ça remet absolument tout en question pour les scientifiques que vous êtes et puis pour les simples humains que nous sommes. Enfin, ça, c'est le sol s'ébranle un peu sous nos pieds, là, non?
Oui, après Copernic, Darwin et Freud, c'est peut-être la nouvelle blessure narcissique. Tant mieux, on a vécu sur un monde centré sur notre planète, puis sur notre étoile, puis sur notre galaxie, puis sur notre cosmos. Peut-être voici venu l'ère de l'acentrisme absolu. Vous savez, comme le disait déjà Bachelard, l'histoire de la physique, c'est l'histoire de ses erreurs rectifiées. C'est une nouvelle rectification, peut-être une révolution. Je trouve ça très enthousiasmant.
Mais enfin, quand même, ce que l'on vous reproche principalement, c'est que cela soit invérifiable. Ça va le rester un moment.
Non, ça c'est faux. C'est faux pour des raisons techniques qui sont un peu délicates à exposer en quelques lignes. Mmh. Mais on peut, à un certain niveau de confiance, valider les modèles et leurs conséquences sous forme d'univers multiples. Donc le modèle est bien popérien, c'est-à-dire il satisfait au critère le plus usuel de falsification d'une théorie scientifique. Donc le protocole expérimental de la pensée scientifique n'a pas véritablement changé. Il s'est déployé, disons.
Est-ce que vous avez beaucoup de collègues qui travaillent sur ce thème? Est-ce que c'est en réseau au niveau international? Comment ça se passe un peu, cette levée d'hypothèses comme ça?
Précisément non, pour une raison simple. Le multivers n'est pas une théorie, et c'est ce qui fait sa force. il est une conséquence de théorie. Les gens ne travaillent pas sur le multivers, et moi non plus. On travaille sur la gravitation quantique, on travaille sur la théorie des cordes, on travaille sur la relativité générale ou sur la mécanique quantique, et on se rend compte que le multivers apparaît parfois, hein, pas de façon systématique, mais assez souvent quand même, comme une conséquence de ces théories. Donc il n'est pas en tant que tel un champ d'étude, il est une conséquence des champs d'étude. Je crois en revanche qu'il deviendra, il l'est déjà d'ailleurs, en particulier chez les Américains, un sujet d'étude philosophique qui est naturellement central.
Oui, c'est un peu ce qui ressort de votre article, Hélène. Hein,
Oui, alors ça c'était une question, c'est effectivement, il semble que du côté anglo-saxon, l'idée fasse un petit peu, enfin bouillonne un peu plus. Est-ce que vous avez des pistes pour nous expliquer pourquoi en Europe, ou en France tout au moins, les gens sont beaucoup plus sceptiques?
Vous savez, je crois qu'on a vécu une très très grande période intellectuelle en France dans les années 60 et 70 avec des gens extraordinaires comme Deleuze, Derrida et beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, il y a un peu un retour de bâton. La pensée intellectuelle est devenue très normatique, très analytique. Il s'agit de penser la vérité, le normal et surtout de sortir comme ça de la période, disons, postmoderne. Je pense que c'est dommage parce qu'il y aurait beaucoup de voies à explorer. Je crois qu'est venue en France une sorte d'ère de la timidité. Alors, faut faire attention parce que c'est vrai que n'être pas timide, être audacieux, ça ne signifie pas dire n'importe quoi. Alors, il y a un risque avec les multivers, on l'a vu, l'idée a déjà été récupérée à des fins tout à fait farfelues. Donc, on est comme ça un peu entre deux eaux, on est sur une frontière. Je crois qu'il faut subvertir et dépasser le strict cadre scientifique, mais il faut faire très attention à ne pas entrer dans le charlatanisme. Donc, la frontière est ténue, c'est un exercice un peu d'équilibriste. On sait que, de mauvaise foi, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe quelle proposition. On voit bien que toutes les grandes propositions scientifiques et philosophiques ont été détournées. Et elles continueront de l'être dans le futur. Je crois que ce n'est pas notre responsabilité directe. Aujourd'hui, on est en train de créer un nouveau monde, en quelque sorte, qui disparaîtra peut-être ou qui deviendra peut-être le modèle standard de notre représentation de l'univers. Je crois qu'il faut effectivement être très prudent à expliquer ce que l'on évoque. Il n'y a aucune dimension théologique ou téléologique, c'est-à-dire qu'il n'est pas déique, il n'est pas centré sur l'homme, il n'est pas finaliste. C'est de la science assez orthodoxe, avec des conséquences nouvelles. Je crois qu'il faut expliquer, mais aussi ouvrir la porte, effectivement, à d'autres types d'interprétations.
Alors, vous allez avoir, effectivement, un gros travail d'explication à faire dans les mois qui viennent. Vous allez continuer, bien sûr, à travailler sur ce thème?
Oui, alors, en ce qui me concerne, bon, je travaille essentiellement en ce moment sur la cosmologie quantique, qui est une des théories possibles pouvant conduire à l'existence d'univers multiples. Ce n'est, comme je le disais, pas pour moi-même un sujet central de recherche, c'est plutôt un sujet de réflexion, parce que je crois que là, la physique se déploie, et parce que, comme l'a expliqué très en détail Hélène il y a quelques minutes, c'est une façon quand même de répondre à cette question très très désopilante. Pourquoi notre univers est-il si adapté à la complexité? Pourquoi tout semble-t-il être organisé pour permettre l'émergence de systèmes incroyablement complexes alors que la plupart des lois donneraient un univers morne et sans aucun intérêt finalement? Pourquoi le monde est-il si diapré et polychrome? S'il existe une infinité de mondes, on se trouve très naturellement dans un des mondes compatibles avec notre propre existence. Et ça, c'est quand même non seulement une conséquence, je veux dire, mais c'est aussi un pouvoir explicatif, ça réinsère la proposition dans un cadre plus global qui mérite effectivement d'être étudié.
Eh bien Aurélien Barraud, merci d'avoir comme ça ouvert notre fenêtre pour quelques temps. Je rappelle que vous êtes chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble, et donc on lit votre interview. Merci Hélène Lemeur.
Merci, mais je crois qu'on aura compris que le sujet ouvre des portes et sujet à débat et à controverse.
Ah oui, portes et fenêtres même. Et donc c'est dans la recherche de ce mois-ci. Merci à tous les deux. Alors bien sûr, si vous avez des questions, des remarques, eh bien vous le faites aussi sur les pages Micro-Méga, sur le site de RFI, www.rfi.fr, sur Facebook aussi, page Micro-Méga. Dans quelques instants, nous partons sur les îles Galapagos, sur les traces de Darwin, avec une expédition dont nous allons parler bien sûr. Compte rendu dans quelques instants, juste après la synthèse de l'actualité sur RFI.